Le vendredi 3 mai, pour vous, Français qui vivez à l'étranger, c'est la date limite pour vous inscrire sur les listes électorales consulaires afin de pouvoir voter aux élections européennes de juin 2024. Ne tardez pas, rendez-vous sur service-public.fr.
France Inter.
Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans Grand Main vous fasse plaisir, loisir et curiosité, le club du vendredi qui tente modestement d'enchanter votre vie quotidienne. Je me souviens exactement de ce matin du 8 avril 1994, date de l'annonce du suicide de Kurt Cobain. Trois jours plus tôt, il y a exactement 30 ans aujourd'hui, j'allais en cours de droit civil ou constitutionnel, je ne sais plus, dans le grand amphi de la fac de droit de Toulouse, et j'avais été très affecté par la mort du chanteur et guitariste de l'album punk rock de ma génération, la génération X, Nevermind. Pourquoi cet album et le suivant In Utero, mais aussi le MTV Unplugged in New York, ont-ils fait tant de bien à une génération désenchantée et aux suivantes? Kurt Cobain a laissé orphelin des millions d'inconnus dont la vie s'est trouvée enrichie par son bref passage sur Terre, comme l'écrivait le magazine Rolling Stone. Ce matin, on évoque le plaisir d'écouter Nirvana avec deux cadors de la musique à France Inter, Mishka Assayas et Mathieu Conquet. La journaliste Christina Pédédouel, qui préfère Jean-Roger Cosimon à Kurt Cobain, vous proposera un livre à déguster ce week-end. Et puis le chef Grégory Cohen vous proposera une savoureuse recette écossaise. Bonjour Thibaut de Saint-Maurice.
Bonjour Ali.
Quel est le menu de votre chronique philo?
Eh bien, vous l'avez rappelé, Kurt Cobain a une vie brève et donc la question c'est, une vie réussie doit-elle être longue?
Bonjour Guillemette Odissino.
Bonjour Ali.
Alors, qui deviendra notre ami cette semaine?
Eh bien, hélas, dans la famille des grands talents disparus trop tôt, je vous raconterai très rapidement la vie très brève d'une autre étoile filante et sublime.
Bonjour Julie Neveu.
Bonjour Ali.
Bande annonce de votre chronique avec la langue.
Eh bien aujourd'hui on va essayer de comprendre les paroles d'une chanson dont le batteur de Nirvana Dave Grohl a dit que Kurt Cobain l'avait écrite en 5 minutes avant de monter sur scène. C'est Smells Like Teen Spirit.
Allez, bienvenue dans Grand Main vous fasse, la vie quotidienne mode d'emploi.
France Inter, Ali Rébéi, Grand Bien vous fasse.
Bonjour Grégory Cohen.
Bonjour Ali Rébéi.
Notre chef qui prépare activement l'ouverture de plusieurs restaurants à Rungis dans le Val-de-Marne. Petit avant-goût de votre recette écossaise ce matin.
Une recette écossaise que j'adore.
Sucrée.
Sucrée. C'est un shortbread, mais pas n'importe quel shortbread. C'est le shortbread millionnaire ou le millionaire shortbread en anglais. C'est en réalité un shortbread avec un petit peu de caramel qu'on va faire avec du lait concentré sucré et par-dessus on va napper de chocolat. C'est un d'année. Ça rappelle une petite confiserie d'ailleurs qu'on peut acheter avec un biscuit, du caramel et un peu de chocolat dessus. C'est hyper bon.
Bonjour Christine Lapelle-Edouel.
Bonjour
Ali. Je sens que cette recette vous plaît. Vous êtes journaliste indépendante et autrice de ces livres qui nous font du bien, publiés chez Marabout. Bande-annonce de votre chronique littéraire.
Eh bien aujourd'hui, je vais vous parler d'un western littéraire qui se passe dans le Montana, écrit par un type formidable qui s'appelle Frank Buis. Plactrum.
Good evening. This is off our first record. Most people don't own it.
Extrait d'About a Girl dans le fameux MTV Unplugged en 1993. Bonjour Mishka Assayas.
Bonjour Ali.
Je suis ravi de vous accueillir. Vous êtes journaliste, écrivain, producteur de l'émission Very Good Trip du lundi au jeudi de 21h à 22h. Vous avez notamment publié une bible, le nouveau dictionnaire du rock chez Bouquin, mais également Very Good Trip, une histoire intime de la musique chez France Inter et GM Éditions. Bonjour Mathieu Conquet.
Bonjour Ali.
Vous êtes journaliste journaliste et producteur de l'émission Et je remets le son le vendredi de 21h à 22h. Alors, le 8 avril 1994, les médias du monde entier annonçaient le suicide de Kurt Cobain, le chanteur et guitariste du groupe Nirvana. Un suicide survenu 3 jours plus tôt à Seattle, aux États-Unis. Il avait 27 ans. À l'époque, comment avez-vous reçu l'annonce de sa mort? Michika Assayas, vous étiez ici, à la maison de la radio, oui, face à Bernard Lenoir, qui animait oui, l'Inrecuptible, et vous êtes abasourdi.
Ah bah oui, je faisais une chronique hebdomadaire, j'étais pas très à l'aise d'ailleurs. Et Bernard, je sais pas, il y avait pas les internet, il y avait pas les smartphones, tout ça, je sais pas quel est peut-être le Minitel, j'en sais rien. Bon. Donc en tout cas, il a appris, il me l'a dit tout de suite, et j'ai dû réagir en direct. Et je crois que j'ai dû bafouiller, bégayer, enfin je n'en revenais pas. Ça me paraissait une chose totalement improbable.
Vous, Mathieu Conquet, est-ce que vous saisissez immédiatement l'importance de sa disparition ?
Ah, pour moi, c'était un cataclysme. Mmh. C'était un héros générationnel. Enfin, moi, j'avais 14 ans, la première fois que j'ai entendu Nirvana. C'était le groupe auquel on s'est identifié dans le son, dans les vêtements, dans tout, dans la façon d'être. Moi, j'étais au lycée quand je l'ai appris. Ça m'a rendu très, très, très triste. Mmh. On s'est retrouvé avec beaucoup d'amis. Et en même temps, d'un autre côté, il y avait quelque chose de, je le savais, je m'y attendais un petit peu avec ce style de vie qui était, j'avais pas voulu aller voir. J'avais raté la première tournée et puis In Utero, j'avais pas été au concert parce que j'avais vu des images de la tournée aux États-Unis sur Canal+, je crois qu'ils avaient montré quelques extraits et on voyait, et ce que m'a confirmé un ami qui est allé les voir au Zénith, m'a dit mais il a l'air complètement absent, le son était horrible, et je m'étais dit non, je veux pas être déçu, voilà. Et on avait l'impression de quelqu'un qui était un peu déjà au bout du rouleau, à côté de la plaque en tout cas, qui avait pas envie d'être là, et j'avais pas eu envie d'assister à ça. Voilà. Hélas, je ne verrai jamais.
Et Mathieu Conquet, vous réalisez vraiment la perte que constitue Kurt Cobain en lisant son journal publié chez 10-18.
C'est sorti des années après, oui, en 2002, c'est je crois 17-18 de ses carnets, c'est vraiment génial. Alors Michka, lui, vous aviez l'édition originale.
Oui, enfin bon,
c'est encore mieux.
L'incunable.
Mais ce qui est super avec ces carnets, en fait, c'est que c'est vraiment, même dans les versions de 10-18, ça reproduit en fait, tous les collages, les dessins, les affiches. Il y a un côté, on a l'impression d'être dans une chambre d'adolescent. C'est-à-dire qu'il y a vraiment, il dit ses groupes préférés, il fait des listes de tous les groupes. Alors ça, ça vous plaît, toutes les listes de groupes qu'il adore. Mais il fait même des lettres de motivation. On voit, il voulait être célèbre, il voulait être connu, il voulait que ça marche. Et il savait comment y parvenir. Il y a même une lettre, il y a un brouillon de comment ils ont viré leur premier batteur. Il prenait la musique extrêmement au sérieux. Et oui, c'était extrêmement émouvant, et ça l'est toujours. Franchement, j'en ai relu quelques pages hier soir, je vous en lirai peut-être un extrait tout à l'heure, si on a le temps. Mais c'est un journal vraiment passionnant à lire.
Michika Assayas, Nirvana est associé au punk rock, au grunge. Pouvez-vous expliquer ces mouvements musicaux à ma mère?
Je n'attendais pas la fin de la question.
Il faut dire c'est alternatif.
Vous n'avez jamais eu l'occasion de lui expliquer dans le privé, dans la cité, ça me dispenserait de le faire.
C'est encore mieux si c'est vous, Michika Assayas.
Oui, bah écoutez, alors non, je vais peut-être prendre le truc autrement, si vous me permettez. Hein. C'est que Kurt Cobain est un rural, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui a grandi dans le nord de la côte ouest des États-Unis, un bled qui s'appelait Montesano, c'est entouré de bûcherons, il y avait des... Bref, enfin, tout ça pour vous dire que c'était pas quelqu'un qui était très branché. Donc, et sa culture, c'était, si on peut dire, c'était le hard rock qu'on écoutait au collège. Son père achetait des disques par correspondance. C'était Led Zeppelin, Aerosmith, etc. Et en fait, il a découvert le punk rock à l'âge de 15 ans quand il allait voir un concert d'un groupe qui s'appelait les Melvins, qui était le groupe de Aberdeen qui avait, entre guillemets, réussi, enfin, qui avait une petite réputation. Et en fait, il est passé très vite du hard rock au punk rock. Et en fait, le grunge, c'est très particulier parce que c'était une musique qui doit beaucoup au métal, mais qui a quelque chose d'extrêmement sinistre, plombé, lancinant et dépressif, somme toute. Et en plus, ça correspond aussi au climat qu'il y a autour de Seattle, qui est un climat où, je crois, il pleut pratiquement tous les jours. Enfin,
Juste un mot sur la ville d'Aberdeen. Kurt Cobain écrivait à propos de cette ville, la population d'Aberdeen est constituée de bofs intolérants, mâchonneurs de tabac, flingueurs de cerfs, tueurs de PD, un tas de bûcherons pas vraiment portés sur les gugus New Wave.
Oui.
Et puis il y a aussi la grosse différence dans le mouvement grunge, c'est que d'un coup il n'y a pas de théâtre en fait, c'est des musiciens. C'est pour ça que je me suis immédiatement indiqué. Parce qu'il faut se figurer, à l'époque les groupes de rock c'est des gens qui sont extrêmement habillés. Là d'un coup ils étaient sapés comme nous, ils avaient des jeans à trous, des chemises toutes simples, des t-shirts, des chemises de bûcheron.
Les chemises de bûcheron elles venaient du climat, car c'était des chemises extrêmement épaisses qui vous permettaient d'être dehors toute la journée sans être trempé.
Et donc, grunge ça veut dire crasse.
C'est la crasse qu'il y a sous les ongles.
Entre les deux.
Donc c'était une anti-mode qui très paradoxalement est devenue une mode.
Comment expliquez-vous que 30 ans après la mort de Kurt Cobain, la musique de Nirvana ne cesse de nous transpercer ? Comment expliquer que cette musique conserve une telle puissance, Mishka Sayas ?
Parce que je pense qu'elle est liée à une sorte de cri primal qui est ancré dans le blues. D'ailleurs, un des musiciens préférés de Cobain n'a rien à voir avec le punk rock ou avec le grunge. C'est Led Belly, qui était un ancien ouvrier agricole qui venait de Louisiane et qui avait été arrêté pour meurtre au Texas, qui purgeait une peine de prison. Et il a été découvert par des musicologues, qui étaient le père et le fils Lomax. Et c'est eux qui ont constitué cette espèce de corpus qui est le patrimoine, finalement... des musiques américaines enracinées, folkloriques. Et donc, What Did You Sleep Last Night, que tout le monde connaît.
Parce que My Girl.
Voilà, exactly.
Where Have You Been Last Night.
C'est une chanson qui avait été popularisée par Led Belly. Et donc, je pense que c'est son côté archaïque qui est le plus touchant. C'est-à-dire qu'il nous relie à quelque chose, à un passé immémorial.
Mathieu Conquet.
D'abord, c'est le son. Moi, c'est la première chose qui m'a touché, qui frappe toujours, c'est la qualité du son, de la production. Bon, il y a quelque chose d'impressionnant, de massif, mais c'est surtout très, très instinctif, très direct. Enfin, ça a pas pris une ride aujourd'hui. Peut-être qu'on entendra des extraits tout à l'heure. Vous nous avez demandé de choisir nos morceaux préférés. Ah non, c'était hyper dur. Mais il y a quelque chose de très immédiat et qui ne s'use pas non plus. Ces textes, en fait. Il y a quelque chose d'extrêmement imagé et une part d'hypothèses, enfin de questions très nombreuses qu'on peut se poser en écoutant ces chansons, c'est qu'on ne peut pas les déchiffrer au premier abord. C'est des chansons d'amour, mais pas directes, un peu tordues, un peu bizarres. Il y a toujours une étrangeté dans ces textes qui fait que ça ne s'use pas, en fait. Il n'y a pas d'épuisement à écouter Nirvana.
Et puis, il a su évoquer ce sentiment d'inadaptation au monde qui a parlé à tant de personnes à travers le monde.
Oui, une forme d'autodétestation, je crois, qui est devenue une sorte de note sourde et dominante qui est apparue à la fin du XXe siècle et qui nous traverse encore. Moi, je ne sais pas, je vais faire des parallèles qui valent ce qu'ils valent, mais il y avait une forme de Welbeck, enfin, chez Kurt Cobain. Il y avait une sorte de... Il y avait un côté farce aussi, enfin, c'est-à-dire qu'il se moquait beaucoup de lui-même, il se déguisait, il faisait le clown. Il y avait quelque chose de je mérite pas de vivre. Et c'est ça qui est le plus poignant, finalement. Alors après, moi, je voudrais juste introduire une petite nuance. Cette idée, le club des 27, ceux qui ont voulu vivre trop vite, etc. Il n'y avait rien de flamboyant chez Cobain. D'ailleurs, il y avait une tradition suicidaire dans sa famille.
Oui, son grand-oncle et son oncle.
Oui, absolument. Donc, c'est quelqu'un qui, de toute façon, a programmé sa mort,
Et il parle de la mort tout le temps dans son journal.
Tout le temps.
Il l'envisage de plein de manières différentes, il l'annonce.
Et d'ailleurs, vous parliez du MTV Unplugged à New York. Vous savez comment il a décoré le plateau de MTV ? Il y avait des lys blancs et des chandeliers avec des cierges. Et quand le type qui était chargé d'organiser le plateau lui a dit « c'est ça que tu veux ?» Et il a dit « ouais, mais ça ressemble à une veillée mortuaire », il a regardé « oui, exactement ».
Et puis Kurt Cobain, c'est le porte-voix de cette fameuse génération X, la génération née entre le milieu des années 1960 et le milieu de la décennie suivante. Cette génération si bien décrite dans le roman Génération X du Canadien Douglas Coupland. D'ailleurs, il y a une nouvelle traduction chez Folio sur cette génération X, Mishka Sayas.
À laquelle je n'appartiens pas. Mais non, ce qui est frappant, c'est quand vous voyez en effet l'enfance de tous ces musiciens, que ce soit Pearl Jam, d'autres copains de Seattle, etc. C'est tous des enfants de hippies complètement à l'ouest qui ont divorcé quand ils étaient gamins, qui ont été ballottés d'un foyer à l'autre, qui ont été livrés à eux-mêmes, qui ont fait leur premier shoot d'héroïne à 12 ans, enfin, etc. Et qui sont mais totalement largués et qui comprennent pas pourquoi ils existent. Parce que personne s'occupe vraiment d'eux, ils ont l'impression de peser. Il y a une chanson que tu connais sûrement, Something in the Way. Et donc, où justement, Cobain se décrit comme vivant sous un pont auprès de cette... ce fleuve qui s'appelle le Wishka, il se met dans la peau d'un, d'un type qui est rejeté de tout le monde, qui est malade, qui peut-être on imagine qu'il a le sida et que personne ne va le sauver. Et il s'identifie à ce personnage et ça, c'est une métaphore assez, assez glaçante en fait, de cette génération-là.
Allez, on continue dans quelques instants à explorer le plaisir d'écouter Nirvana en compagnie de Mishka Sayas et Mathieu Conquet. Mais il est l'heure de retrouver le choix littéraire de Christina Pelédouel. Alors, ma chère Christina, vous avez choisi un roman de Franck Bouys. Ça s'appelle Âpre Monde et c'est publié chez Phébus.
Et d'ailleurs, c'est un livre qui n'est pas si éloigné que ça de ce que je viens d'entendre à propos de Kurt Cobain, parce que c'est un roman qui se passe vraiment chez les cutéreux. Vraiment, vraiment, mais dans le Montana, cette fois-ci. Donc, Franck Bouys, c'est un auteur qui a déjà écrit beaucoup, qui avait écrit un roman formidable qui s'appelait Née d'aucune femme, et qui d'ailleurs avait été couronné de plusieurs prix. C'est un excellent écrivain qui vit en Corrèze, loin de tout, qui fait un petit peu de culture, mais en tout cas qui vit dans son milieu naturel, si j'ose dire. Donc cet âpre monde, c'est le tome 2 d'un ensemble de 3, on attend le troisième. Aucun besoin d'avoir lu le premier, parce qu'il revient sans arrêt sur ce qui s'est passé dans le tome 1, donc allez-y tranquillement. Et alors là, il emploie un style complètement différent du premier, de son premier livre, de celui dont je vous ai parlé. C'est un western contemporain et littéraire qui se passe donc dans les montagnes du Montana. C'est par la même occasion, pour ceux qui aiment, un hommage à Jim Harrison. Donc c'est pas mal et il met la barre assez haut, mais il tient le défi. Donc l'histoire, en fait, est très classique, c'est vraiment une histoire très classique de western. C'est le retour du héros, qui s'appelle donc Elias Greenhill, qui revient chez lui, donc dans le Montana, après un voyage en France. Alors vous apprendrez dans le livre pourquoi il est parti en France, et en réalité, il est parti sur les traces de ses origines. Je vous laisse découvrir quelles sont ses origines, qui sont bien entendu, sinon ça serait pas un western, bien tordues. Donc il découvre en arrivant l'exploitation frénétique du bois par une grosse entreprise qui s'appelle Drum, du nom du propriétaire. Et ça, ça va mettre le feu aux poudres. Il ne supporte pas ce qui est en train de se passer autour de lui, c'est-à-dire l'abattage de forêts entières. Donc ça va être le classique affrontement entre un gentil, qui n'est pas si gentil que ça, et des très méchants qui sont vraiment très méchants. Voilà. Alors ça galope, hein. Il y a de l'air, il y a de la neige, il y a de la montagne, il y a la beauté des paysages, du suspense. Bref, c'est absolument impossible à lâcher. C'est une réussite du début à la fin. Moi, j'adore l'écriture de Franck Bouys. Et ce que je trouve formidable dans son écriture, c'est qu'il sait passer d'un style à l'autre. Née d'aucune femme, c'était un style très gothique, très anglais gothique, bien que se passant de manière contemporaine. Là, c'est pareil, hein, c'est un western contemporain. Impossible à lâcher, c'est une réussite. Et suivez Franck Bouys, parce que c'est un type, non seulement c'est un très bon écrivain, mais en plus c'est un type formidable, qui a des convictions et qui est vraiment extrêmement sympathique.
Mishka Sayas lorgne sur Âpre Monde.
Ben, je vous en fais cadeau.
Mais non, mais si vous avez le seul exemplaire,
Non, j'en aurai un autre. Je vous le donne. Avec
c'est
plaisir.
Âpre Monde de Franck Bouys, c'est publié chez Phébus et c'est un cadeau.
Merci
Mishka.
Beaucoup.
Mathieu Conquet est jaloux, mais on va vous offrir autre chose. Je ne sais pas quoi, mais voilà. Le choix de Christina Pelédouel l'a retrouvé sur l'appli France Inter. Il a rien apporté, Grégory Cohen. Et vous tombez sur un mauvais jour, Mathieu Conquet, hein, là vraiment. Allez, El Piaf a l'idée de partager son ami du vendredi, Guillemette Odissino.
France Inter.
Chouette, tu es Harry Potter.
Grand bien vous fasse.
Je suis Hermione Granger et...
Évite de choisir tes amis parmi les gens douteux. Je peux te conseiller.
Vous pouvez refaire le son que vous avez fait, Thibaut? Voilà. Merci beaucoup.
Guillemette qui piaffe.
Ah d'accord.
Ça c'est pas un piaffe, hein, ça.
Ça c'est le bruit de moi qui piaffe.
Le professeur de philosophie Thibaut de Saint-Maurice. Très bien. Guillemette.
Oui. Alors aujourd'hui, Ali, nous parlons grunge, nous parlons romantisme noir, nous parlons d'un mec aux longs cheveux blonds qui décida d'en finir un jour de 1994 en pleine gloire. Moi, je voudrais vous parler d'un ange parti l'année précédente, en 1993, laissant le monde abasourdi que tant de talent, de beauté s'envole à jamais et dont la disparition fit pleurer des rivières. River Phoenix. Il fut comparé à James Dean. Bon, alors évidemment, vous êtes beau, sensible, vous mourrez à l'âge où les autres achètent leurs premiers deux pièces, vous êtes immédiatement comparé à James Dean, le monde a peu d'imagination. Mais James Dean paraît fade, désolé, face aux traits si gracieux et androgynes de River, son corps qui ressemble à une ballade à la guitare sèche. Et River, c'est ce genre de talent qui brûle la pellicule tout de suite. Une apparition, une adéquation magique avec la caméra. D'abord, à 16 ans, il est Chris Chambers, l'un des adolescents de Stand By Me, qui partent à la recherche d'un cadavre, un été, dans l'Oregon. C'est comme ça, c'est injuste, mais des quatre jeunes acteurs, on ne voyait que lui. Puis, après avoir été un fils trimballé de force au Honduras par son père Harrison Ford dans Mosquito Coast de Peter Weir, il devient, à jamais, un adolescent en fuite à cause de ses parents dans À bout de course, le chef-d'œuvre de Sidney Lumet, en 1988. Là, ce n'est pas rebelle without a cause, mais rebelle face à la cause de ses parents. On dirait le rôle écrit pour lui, tant son personnage est proche de sa propre vie. Né en 1970 dans l'Oregon, River, en référence au fleuve de la vie du roman Siddhartha de Hermann Hesse, a grandi dès l'âge de 2 ans au sein de la secte Les Enfants de Dieu, avec ses 5 frères et sœurs, Rain, Summer, Liberty, Joe et Dan, et bien sûr Joachim. Une secte qui prônait l'amour libre et en fait, où tout n'était évidemment que violence et coercition. Aîné de la famille, il chante dans les rues avec sa sœur Rain pour empocher quelques dollars. Puis, en 77, enfin, les Phoenix quittent la secte pour s'installer à Los Angeles et il change de nom. Et oui, au départ, River se nommait River Bottom, ce qui peut se traduire par River Q.
Oui.
Alors, pour entrer dans la légende, mieux vaut le nom d'un oiseau qui ne cesse de renaître de ses cendres.
Et il y a un rôle magnifique dans lequel on ne l'oubliera jamais.
Absolument, avec une scène, justement, où Phoenix regarde le feu. Dans My Own Private Idaho de Gus Van Sant, en 1991, il incarne de toute son âme un jeune prostitué narcoleptique, obsédé à l'idée de retrouver sa mère qu'il a abandonnée. La scène où, près d'un feu de camp, il déclare son amour au personnage joué par Keanu Reeves est hypnotique. Il faut entendre River murmurer. Il faut le voir se recroqueviller comme un petit oiseau. Tant de fragilité, d'incandescence, c'est inouï. Quand il mourut d'overdose, dans les bras de son frère Joachim, une saleté de nuit d'Halloween sur le trottoir devant le Viper Room, la boîte de nuit de Johnny Depp, il était déjà prévu qu'il soit Jack Dawson dans Titanic. Et puis James Cameron dut le remplacer par Leonardo DiCaprio. La mort de River éclipsa même celle de Federico Fellini, survenue le même jour. Dans l'album Monster du groupe REM, sorti en 94, la chanson « Let Me In » a été écrite en réaction au décès de Kurt Cobain, mais l'album, lui, est dédié à River. Et depuis que l'aîné des Phoenix s'est éteint, on le sent bien dans son intensité, son frère Joachim joue pour deux.
Commentaire, Mishka Sayas.
Ah non, j'ai rien à ajouter. Non, c'est très émouvant.
C'est un acteur magnifique. Et Gus Van Sant avait vraiment trouvé là un acteur extraordinaire qui a porté ce film et qui fait que c'est aujourd'hui c'est une référence. Et en effet, c'est complètement lié à Nirvana.
Revoyez My Own Private Idaho de Gus Van Sant. Tous les épisodes de L'Ami du Vendredi de Guillemette Odissino sont à podcaster sur l'appli Radio France. Tout au long de la semaine, l'émission a été préparée par Nathalie Romero, Matteo Scognamiglio, Joachim Taïeb avec l'aide de Charles Thierry. La réalisation a été signée, Claire Destacan, la programmation musicale Valentine Chedebois. Merci aux techniciens et aux standardistes qui se sont succédés tout au long de la semaine. Dans un instant, on continue à explorer le plaisir d'écouter Nirvana, comme Smell Like Teen Spirit, l'hymne d'une génération en 1991. Michigan. Et là, je vous laisse les annoncer.
Écoutez, je sais pas si vous avez besoin de moi pour dire qu'on vient d'écouter Smells Like Teen Spirit par Nirvana.
Grand bien vous fasse.
Faut dire que Kurt Cobain, Nirvana, c'était quand même comme un conte de fées, quoi.
Ali Rebi.
C'était trop beau. Ça se voyait que ça allait pas durer. C'est une envie, quoi. Kurt Cobain, Nirvana, ça sera toujours dans notre tête.
Sur France Inter.
Grand bien vous fasse, loisir, plaisir, curiosité. Ce matin, le plaisir d'écouter Nirvana avec les journalistes Mishka Assayas et Mathieu Conquet, qui fait partie du club des moustachus de France Inter, dont fait partie votre serviteur. Mishka, oui. Pourquoi le 45 tours Smells Like Teen Spirit a-t-il rencontré un tel succès planétaire? Dans votre nouveau dictionnaire du rock, une référence, vous écrivez que ce titre dynamite l'hit parade avec son alternance de calme oppressant et d'explosion sonore.
C'est un paradoxe en effet, parce que vous savez, Cobain s'est beaucoup inspiré d'un groupe qui s'appelle les Pixies, qu'on connaît beaucoup et qu'on aime beaucoup en France, mais qui n'a jamais eu le succès mondial que Nirvana a pu avoir. Et en fait, Cobain avait été très impressionné par ces titres des Pixies qui alternaient des ambiances comme ça sinistres et oppressantes avec des espèces d'explosions paroxystiques qui retombaient. Et autant quand le chanteur des Pixies chantait ce genre de titre, il y avait quelque chose de très théâtral, il y avait une sorte d'humour un peu froid. Chez Cobain, c'est quelque chose de plus viscéral. Et puis il y avait quelque chose aussi quand même, parce qu'on a parlé de punk, on a parlé de hard rock, mais il y avait un côté pop chez Nirvana. C'était des mélodies que tout le monde, vous pouvez adapter Smells Like Teen Spirit en rumba, en tango, en tout ce que vous voulez, ça marche toujours.
Ça a été fait d'ailleurs.
Ça a été fait, je sais pas si c'était une très bonne idée. Mais enfin,
c'était un grand fan des Beatles, il l'a toujours
dit. Il adorait un des premiers albums des Beatles, qui est Meet the Beatles, qui est pas du tout un des albums que vous verrez dans la liste des meilleurs albums de l'histoire du rock, qui est un album justement un peu yéyé, entre guillemets. Et il adorait ce côté enfantin, naïf dans la musique, des comptines. Et il aimait aussi d'ailleurs des choses tout à fait étranges, qui étaient des chansons, des albums enregistrés par des gens qui étaient des autistes, ou des gens qui maîtrisaient très, très mal la musique, comme Daniel Johnston, enfin, qui était un genre d'handicapé mental, enfin, et ça, il se reconnaissait dans cette approche complètement naïve et maladroite.
Mathieu Conquet, comment expliquez-vous le succès planétaire du deuxième album de Nirvana, Nevermind, qui s'est vendu, je crois, alors les chiffres divergent, entre 10 et 15 millions à travers le monde. Comment vous expliquez ce succès?
C'est difficile, si on le savait, on aurait tous changé de métier. Mais il faut parler, je pense que c'est la rencontre de plein de choses. Oui. Souvent, c'est le bon moment, c'est le timing, et ça, vous ne le choisissez pas. C'est l'époque qui vous choisit comme une réponse à beaucoup d'interrogations. Il faut parler, on parlait de Smells Like Teen Spirit, il faut parler de la danse, quand même, le mouvement, le clip. C'était, on voyait ces jeunes, c'était dans un stade de basket.
Il y avait des pom-pom girls,
et puis les pompons, ça devenait les têtes de tout le monde, parce qu'on avait les cheveux longs, et on headbangait comme des fous. Et là, il y avait quelque chose aussi de très libérateur à écouter Nirvana, à aller à leur concert, à rentrer dans le pogo. C'est pas que les pogos n'existaient pas avant, mais moi, en tout cas, je les ai découverts à ce moment-là, de cette manière-là. Et on crachait plus sur les musiciens comme ça se faisait dans les années 70. Cette fois-ci, il y avait une énergie qui était libérée à ce moment-là avec Nirvana. Et moi, ça produit toujours le même effet quand j'entends leur musique.
Grégory Cohen, sur la danse.
Alors moi, je suis pas Génération X non plus, mais je voulais le préciser. Mais sur la danse, oui, c'était complètement dingue, c'est-à-dire c'était complètement décomplexé. Il y avait une partie de punk presque qu'on récupérait là-dedans, mais qu'on pouvait comprendre beaucoup mieux parce que il y avait des instruments qui jouaient vraiment et il y avait une vraie mélodie. Il y avait ces côtés d'explosion où on s'autorisait à exploser complètement, même nous physiquement, où on pouvait danser n'importe comment et peu importe en vrai. Et puis ces moments où ça redescendait, ça reprenait et de ouf. Et quand on avait des cheveux, en tout cas moi, c'est toujours mon cas, je pense à vous Ali, mais on pouvait vraiment bouger la tête très fortement.
C'est pas sympa pour Mathieu Conquet aussi. Guillemette.
Ah, moi j'avais des cheveux. Enfin,
j'en ai toujours.
Oui, j'en ai toujours. Non, moi ce que je trouve assez fascinant, et d'ailleurs dans le pogo on retrouve cette chose, et dans ce que vous disiez sur, c'est à la fois, on a l'impression que c'est une musique qui se retient, qui comme ça, une espèce de mélancolie un peu sourde, et puis qui tout d'un coup qui explose et tout. En fait, c'est, je pense que pour l'adolescent que nous étions tous, ou les adolescents qui arrivent, il y a un mélange incroyablement subtil d'empêchement et d'éclatement. C'est-à-dire, ça raconte constamment que la jeunesse est empêchée sur des morceaux qui éclatent par moments et sur lesquels on peut prouver que non, rien ne peut nous empêcher. Enfin, c'est vraiment très subtil, ça.
Oui, ça me semble extrêmement juste. Et en effet, c'est ce côté découragement. C'est-à-dire que c'est perdu d'avance. Et en même temps, vous avez quelque chose qui bouillonne en vous, qui ne peut pas durer. Qui peut pas durer et qui peut vous détruire. Et ça, c'est ce qu'on ressent très fortement.
Mathieu Conquet, quels sont les thèmes récurrents que l'on retrouve dans trois albums de Nirvana, Nevermind, In Utero, et puis dans la captation par MTV d'un concert acoustique?
Ah bah, le sexe, bien sûr, la drogue, l'oubli,
la mort.
L'oubli de soi-même, la mort, évidemment. Oui. Mais je crois pas qu'il y avait forcément... Mm. Bon, il y a peut-être un romantisme, comme il y a forcément chez pas mal d'adolescents.
Je dirais, ouais, l'incapacité de savoir qui on est vraiment.
Mm. Voilà. Et aussi le refus d'être assigné à une seule et même chose, à un seul et même rôle.
Un seul et même sexe aussi. Il y a une chanson, lui qui était hétérosexuel, il y a une chanson où il dit « Everyone is gay ».
Exactement.
Tout le monde est gay. Enfin,
il lui était arrivé de porter des robes sur scène, ouais. Il s'en foutait complètement. C'était pas quelqu'un de du tout machiste. Sa chanson « Rape Me », elle a été mise en cause parce qu'il y en a aujourd'hui qui la lisent différemment. Mais il n'y a pas de question à se poser sur le point de vue de Cobain là-dessus. Oui. Il avait écrit des notes, je me souviens, pour une compilation qui s'appelait Incesticide. Et dans les notes, il avait mis « Si tu es raciste, sexiste, homophobe, on ne veut pas que tu achètes nos disques.
Voilà, » Il faut signaler aussi un courage qui passerait peut-être difficilement aujourd'hui. C'est une chanson qui s'appelle « Polly », où il se met en scène dans la peau d'un mec qui a enlevé une fille, l'a attachée, l'a torturée et s'apprête à la tuer. Et Courtney Love disait très justement qu'aujourd'hui ça ne passerait plus.
Autour de la table, quels sont vos titres préférés? Tiens, Mishka et Julie, vous avez choisi.
My girl, don't lie to me. Tell me when did you sleep last night?
Mishka.
Oui, moi je pense que.
Where did you sleep last night?
C'est le. C'est Led Belly. C'est un blues ancestral qui.
Puis le sujet, il parle à tout le monde. Hein.
Ah
t'étais
oui, bah ça,
la nuit dernière.
Pourquoi t'étais pas là? Où est-ce que t'as dormi la nuit dernière? C'est...
Oui, Mishka.
J'étais chez moi.
Pourquoi ce titre, Mishka?
Parce que justement, il échappe à toutes les classifications musicales de la période qu'on vient d'évoquer. C'est ni punk, ni metal, ni grunge, ni rien. Enfin, c'est universel. C'est-à-dire que là, même le prof de basse de Mathieu, il a aimé ça. Donc,
Julie.
Ben non, mais moi, j'avais pas cette question. Où est-ce que vous aviez dormi la nuit dernière? Je pense quand j'avais 13 ans. J'adorais. C'est-à-dire, j'aimais les pogos aussi. J'aimais les plus violentes, mais celle-là. Il y avait cette douceur, cette voix. Moi, j'adore le côté un peu folk, balade.
C'est déchirant, surtout.
C'est déchirant, ouais, non, c'est super beau.
Et vous, Mathieu Conquet, Mishka Sayas, vous aimez énormément. All Apologize.
C'est une chanson, en fait, je crois que Dave Grohl a raconté qu'il avait entendu Kurt Cobain faire des démos de ce morceau en 90, et c'est à ce moment-là il s'est dit, mais ce mec est brillant en fait, c'est un mélodiste génial, pourquoi est-ce qu'il s'escrime à hurler dans les morceaux alors qu'il écrit tellement bien. Dave Grohl le batteur, mais les paroles sont géniales, c'est vraiment question d'identité, d'amour, qu'est-ce que je devrais être d'autre, toutes mes excuses. In the sun, I'll feel as one. All in all, all is all we are. On est tout en un, c'est ce que nous sommes. Il y a quelque chose d'une sorte de méditation métaphysique à la fin de ce morceau. Moi, c'est un morceau qui est brillant. Et puis voilà, cette mélodie de guitare est extrêmement entêtante.
Thibaut, votre chanson préférée de Nirvana, c'est ça.
Ben oui,
parce que d'abord il y a cette introduction qui immédiatement, il suffit de l'écouter la première fois pour qu'elle fasse immédiatement partie de la bande originale de votre lycée. C'est aussi tout simplement une chanson dont je comprenais les paroles.
ce qui n'était pas fréquent dans le cas de Nirvana.
Et je dois avouer que en fait, c'était pas forcément exactement toujours la musique que j'écoutais, etc. Et en fait, cette chanson, elle nous dit, avant la grande campagne d'une grande marque de fast-food, de venir comme on est, en fait. Et je trouve que c'est extrêmement accueillant. Et alors que parfois le rock, le métal, etc., tous ces trucs sont un peu des choses de distinction, d'appartenance, où on ne sait pas si on en fait partie ou pas. Là, il y avait un truc qui était très libérateur, où en fait, peu importe qui tu sois, qu'est-ce que tu aimes, qu'est-ce que tu écoutes, en fait, viens sur cette musique.
Mathieu Conquet. Et ce qui est drôle, c'est que Come As You Are, aujourd'hui, au panneau d'entrée de la ville d'Aberdeen, il y a marqué Aberdeen, Come As You Are, alors que c'était exclu, un paria de la ville.
Il détestait tous, ouais. C'est sûr.
Et maintenant, il y a Come As You Are marqué sous
le panneau. Et l'intro a été piqué quand même à Killing Joke. Ouais. Hein, c'est un groupe de l'après-punk anglais. Ouais.
Vous, Guimette.
C'est Francis Farmer Will Have a Revenge on Seattle. Alors ça, c'est parce que pourquoi ? Parce que ça, c'est un titre où il rend hommage à Frances Farmer, qui était une actrice extraordinaire, qui a été piétinée par Hollywood, internée, qui est devenue folle, qui est morte jeune. Donc bon, on rend hommage à des gens qui nous ressemblent, hein, j'ai l'impression. Et dedans, je trouve qu'il y a une phrase qui résume, enfin un refrain qui résume parfaitement. Il y a I miss the comfort in being sad. Ça me manque, le confort d'être triste me manque. Moi, je trouve ça d'une beauté totale.
Au fond, Mathieu Conquet, Michika Sayas, d'où provient ce plaisir physique et intellectuel, spirituel, d'écouter Nirvana, Michika ?
En fait, savoir que quelqu'un arrive à faire de la beauté à partir de sentiments détestables, moi, ça m'a toujours fasciné.
Mathieu ?
Oui, puis l'esprit de communion, en fait, je pense que moi, ça me ramène à mon adolescence et au partage que j'ai pu avoir lors de concerts ou de soirées où on écoutait ça. Donc aujourd'hui, c'est cette communion que je retrouve, même si je suis tout seul dans le train à écouter ça. Je me sens en communion avec une époque et je pense que c'est ce que ça a suscité à ce moment-là. C'est en effet une solitude qui parle à la collectivité, mais de façon individuelle.
Allez, on continue d'évoquer la figure de Kurt Cobain dans la chronique philo de Thibaut de Saint-Maurice.
France Inter, grand bien vous fasse.
C'est pas un truc d'intello la philosophie, c'est pas de la masturbation intellectuelle. Personne n'a à vous dire ce que vous devez penser, hein. Personne. Jamais.
Alors ce matin, Thibaut, puisque nous parlons du groupe Nirvana et de son chanteur Kurt Cobain, vous vous demandez si une vie réussie est une vie longue.
Mais oui, Ali, parce qu'on l'a dit, donc Kurt Cobain a fait justement partie donc de ces artistes, ou plus simplement de ces hommes et de ces femmes qui n'ont pas eu une longue vie et qui sont donc morts jeunes, à 27 ans, en pleine jeunesse, comme on dit aujourd'hui, dans des pays où l'espérance de vie pour les hommes dépasse les 75 ans. Mourir jeune, c'est mourir de façon, semble-t-il, encore plus inacceptable. C'est donner l'impression d'une vie gâchée parce qu'elle n'aura pas eu le temps d'être vraiment vécue. Et pourtant, et tout ce qu'on a dit le confirme, à 27 ans, Kurt Cobain n'a pas traîné. Il est déjà une célébrité mondiale et sa musique s'impose comme la voix de toute une génération. 30 ans plus tard, on l'écoute toujours et son œuvre est devenue une sorte de classique qui passe les générations. Alors faut-il vivre longtemps pour réussir sa vie ? La longévité est-elle une condition du bonheur ? Peut-on avoir réussi sa vie en mourant à 27 ans ?
Alors a priori, Thibaut, ce n'est pas vraiment ce que nous dit notre époque.
Oui, toute notre modernité s'est construite sur un idéal d'allongement de l'espérance de vie et sur une amélioration des conditions de vie pour augmenter donc la longévité des personnes. Les indicateurs économiques, par exemple, qui essayent de mesurer le développement des sociétés ou le bonheur des populations, intègrent toujours un critère de longévité ou d'espérance de vie. Sans compter tous les magazines et tous les sites qui regorgent de conseils pour devenir centenaire ou vivre le plus longtemps possible en bonne santé. Mais tout ça ne suffit pas à faire de la seule longévité une condition du bonheur ou de la réussite. Et pour le comprendre, je vous propose d'aller relire un petit bouquin de Sénèque qui s'intitule « De la brièveté de la vie ». Pour Sénèque, la valeur d'une vie ne tient pas à sa durée, mais à ce à quoi on s'occupe dans cette durée qui nous est donnée. Nous pouvons vivre longtemps, mais si nous ne nous saisissons pas de ce temps qui nous est donné pour nous occuper à des choses essentielles, alors cette longévité, nous la gaspillons.
Et à l'inverse, une vie brève, bien que courte, peut donc avoir été pleinement vécue et avoir suffi à nous rendre heureux ou à marquer son époque. Ce qui compte, nous dit Sénèque, c'est de s'emparer du présent de sa vie et de l'occuper à ce qui compte le plus pour nous, nos proches, des combats qui nous importent ou des passions qui nous animent. De la même façon donc que la longueur d'une vie ne suffit pas à en faire une vie heureuse, eh bien sa brièveté ne suffit pas à en faire une vie malheureuse. Alors, pourquoi continuons-nous d'avoir si peur de mourir jeune? Pourquoi trouvons-nous particulièrement triste et cruel d'apprendre la mort de quelqu'un plus jeune que nous? Pourquoi dit-on qu'il ou elle est parti trop tôt? Trop tôt par rapport à quoi? À qui? Par rapport à ce qu'il ou elle aurait pu vivre ou faire, mais qu'en savons-nous au juste? Pourquoi regrettons-nous si fort tout ce qui n'aurait pas été vécu, sans se réjouir de tout ce qui a été effectivement vécu? Alors je dis pas que c'est facile, mais puisque tant de choses de la vie nous échappent, pourquoi ne pas se concentrer sur ce qui est en notre pouvoir, sur ce que nous pouvons faire? Et si ce n'est pas la longueur d'une vie qui fait sa valeur, alors sans doute est-ce d'une certaine manière sa largeur, cette capacité que nous avons de l'élargir, de l'augmenter jusqu'au aux limites de notre ambition et de notre imaginaire pour vivre pleinement, tout simplement.
Personnellement, Thibault, j'ai le temps. Mathieu Conquet.
Je pensais, en fait, on a beaucoup glosé sur la lettre qu'avait laissée Kurt Cobain, où il citait les paroles d'une chanson de Neil Young, Hey Hey My My, vous connaissez ça par cœur, Mishka, où il dit « It's better to burn out than to fade away ». Il vaut mieux brûler, franchement, que de s'éteindre à petit feu.
Guillemette.
Oui, mais le problème, c'est que quand le feu disparaît, ce sont les gens autour qui se mettent à avoir froid.
Ah oui.
Oh, c'est bien vu. En tout cas, dans la lignée de la chronique de Thibault, vous pouvez réécouter une série d'émissions d'Affaires Sensibles de Fabrice Drouel consacrée au Club des 27, le fameux Club des 27. Kurt Cobain, Janis Joplin, Amy Winehouse, Jim Morrison et Jean-Michel Basquiat qui sont tous morts à l'âge de 27 ans. Et toutes les chroniques philo de Thibault, de Samory sont à podcaster sur l'appli Radio France. Après les nourritures intellectuelles, les nourritures bien terrestre de Grégory Cohen. Alors, Grégory, au menu de ce week-end, un délice écossais.
Ah oui, alors c'est au retour d'un voyage d'Écosse que j'ai découvert ce shortbread millionnaire. L'Écosse, c'est juste magnifique. Si vous n'y êtes pas allé, allez-y. Les paysages, les îles, les lochs. On ne dit pas les lochs, les lochs,
merci
les
pour
lacs.
Cette précision.
Et puis, la nourriture et surtout les gens qui sont tellement exceptionnels. En parlant de nourriture, donc le shortbread, il nous faudra 200 g de farine, 100 g de sucre, 150 g de beurre mou et une pincée de sel. Pour la garniture, on aura besoin de 180 g de lait concentré sucré, de 20 g de beurre et de 200 g de chocolat noir. Alors on démarre par le shortbread, c'est hyper simple comme recette. On va préchauffer son four à 180 degrés. La recette, elle dure à peu près 30 minutes à réaliser, donc c'est très rapide en plus. Et dans un bol, on va mélanger la farine, le sucre, le sel, on ajoute le beurre mou, on malaxe jusqu'à obtenir une pâte sablée, on étale la pâte dans un moule carré de 20 cm environ, on enfourne 20 à 25 minutes jusqu'à ce que le shortbread soit doré et on laisse refroidir à sortie du four.
Pendant ça, c'est fait.
Que ça cuit, on va réaliser le caramel. Alors pour réaliser ce caramel, c'est aussi très très simple, on a besoin que du lait concentré sucré et du beurre qu'on va mettre dans une casserole et qu'on va laisser réduire et brunir, une sorte de dulce de leche à l'Argentine, et on a un caramel qui est réalisé très facilement. Ensuite, on va réaliser le montage, c'est déjà prêt, donc le shortbread refroidi, on nappe le caramel dessus, on laisse ça figer et prendre au frigidaire. Ensuite, on va faire fondre son chocolat. On va le laisser figer et prendre pendant 1 à 2 heures maximum. Ensuite, on va faire fondre son chocolat au bain-marie ou alors au micro-ondes. Une fois qu'il est fondu, on nappe notre shortbread dessus. On le remet au frais pour que ça refige.
Pendant 2 heures.
Pendant aussi 2 heures. Et ensuite, on le découpe en petits carrés et on se régale. On a du croustillant, on a du fondant, on a du caramel, on a du chocolat. On a un shortbread millionnaire.
La recette de Grégory Cohen à retrouver sur votre compte Instagram. Grégory Cohen off avec...
2 F.
Dans un instant, la chronique de Julie Neveu avec la langue. Et en attendant, on écoute l'Escope qui interprète les garçons.
Un été suffocant, parfois il se lève tôt. Il respire le sirocco. Comme des rois fainéants affalés sur le dos. Le soleil jaune et blanc s'écrase sur leur peau. Comme des anges dilettants, ils font semblant d'être idiots. Voyous, discrets et ça les rend beaux. Ils parlent aux filles en criant, ils ne connaissent pas les mots. petit cœur de sale. À la campagne, à la ville, les beaux quartiers, les banlieues. C'est comme ça que pensent les garçons. Ils veulent ignorer les larmes qu'on voit dans leurs grands yeux. C'est comme ça que pensent les garçons. Ce sont des pauvres endeuillés quand ils tombent amoureux. C'est comme ça que pensent les garçons. Un jour ils meurent dans l'oubli, leurs enfants après eux. C'est comme ça que finissent les garçons. Quand un désir fou brûlant ou l'envie d'un sanglot les étreint violemment, partant lambeau. Un amour dévorant, troublant, cruel et beau, comme le regard d'un serpent dans celui d'un oiseau. Les anges dilettants partent toujours trop tôt. Ils aiment la vitesse, l'argent, les flingues, les motos. Puis septembre arrivant, ils se brisent les os. Ils se fracassent au volant de leur GTO. À la campagne, à la ville, les beaux quartiers, les banlieues. C'est comme ça que pensent les garçons. Ils veulent ignorer les larmes qu'on voit dans leurs grands yeux. C'est comme ça que pensent les garçons.
L'escope interprété, les garçons.
L'aigle va fondre sur la vieille buse.
France Inter.
C'est chouette comme métaphore, non?
Grand bien vous fasse.
C'est pas une métaphore, c'est une périphrase.
Enfin, pas chier.
Ça, c'est une métaphore.
La chronique avec la langue de Julie Neveu. Alors aujourd'hui, Julie, vous êtes retroussée les manches pour analyser les paroles d'une des chansons les moins claires du monde, Smells Like Teen Spirit, qu'on a écouté tout à l'heure.
Ouais, dur, en plus devant Mishka Assayas et Mathieu Conquet, en plus. Bon, alors, donc la chanson tube, j'y vais quand même. Hein. La chanson tube de Nirvana de 1991. Donc Kurt Cobain a peut-être gribouillé les paroles en 5 minutes. Cobain, qui se plaignait à la télé canadienne en 1993 de devoir expliquer ses paroles alors qu'il avait, je le cite, seulement mis des bouts de poésie, de mots déformés, des mots poubelles, quoi, ce genre de truc qui lui sortait de la bouche à ce moment-là. Bon, j'essaie quand même, donc, parce que cette poésie poubelle a quand même participé à l'émergence du grunge. Grunge qui vient de grungy, qui veut dire dégueu, sale, bref, le grunge comme musique dont l'esthétique est crade. Et ma question, c'est comment les mots de Smells Like Teen Spirit célèbrent-ils un chaos crade, dépressif et jouissif à la fois? En effet, par déformation des mots. Ici, on écoute Hello. Alors, hello, le salut banal, répété comme une incantation qui sort du fonctionnel et se déforme vers how lao, donc avec les mêmes consonnes, mais des sons vocaliques plus bas, plus ouverts dans la bouche, comme ralenti. How lao, qui veut dire littéralement combien bas. Deux par ellipse, parce que combien bas, how lao, c'est le début d'une exclamative incomplète. En entier, on aurait eu how lao, par exemple, I feel, par exemple, comme je me sens mal. Là, on garde juste l'intensité avec how, qui est adverbe de degré, et comme tous les mots en double VH en anglais, what, who, where dit le manque d'information. Sur quoi porte cette souffrance? Peut-être la rupture sentimentale, peut-être pas, on sait pas. Et donc on garde seulement le bas, la position bas et l'intensité. Le bas qui est métaphoriquement la tristesse, la dépression. En anglais, you feel up ou you feel down, low. Et c'est la même ellipse du sujet réel qu'on a dans la phrase it's hard to find, c'est dur à trouver. Mais quoi? Quoi? Il y a comme un sujet qui se perd dans ces paroles, surtout à la fin, bien sûr. Les derniers mots de la chanson, ce cri rauque, ce mot scandé, a denial, un déni. Mais qui ni quoi? A denial. Le sujet est dissous, rien n'est stable. On passe du sourire, smile, à la dureté, des amis au fusil, d'un extrême à l'autre, du rien au tout, du calme à l'explosion. Comme dans l'un des premiers poèmes anglais, pré-grunge, sur la dépression, ou bipolarité, ou mélancolie à l'époque. C'est Robert Burton, dans son Anatomie de la mélancolie, en 1628, qui passe du désespoir à la béatitude et retour. Je le cite, « J'échangerai ma vie avec la première épave venue que tu seras allé chercher dans le fossé. » Donc l'odeur du teen spirit, l'esprit adolescent, repose sur ces retournements. I am worse, at what I do best. Je suis pire dans ce que je fais de mieux. C'est l'inverse de l'habituel I am best at what I do. Je suis le meilleur à ce que je fais. C'est pas juste bien ou mal non plus, good or bad, worse, c'est worse et best, c'est-à-dire les comparatifs et les superlatifs. Toujours des degrés, encore des degrés d'intensité. L'intensité qui d'un coup diminue dans less dangerous, moins dangereux avec les lumières éteintes. Là, on est arrivé quelque part. Il y a une phrase plus claire en fait. Here we are now. Entertain us. Donc, here we are now, entertain us. En fait, le non-sens, c'est ce jeu. Cette première personne, le yo-yo des extrêmes, le présent discontinu qui mène à l'apathie, never mind, laisse tomber. Mais au-delà du jeu, il y a le nous, il y a le groupe, il y a un sens, danse, contagieux, grégaire, il y a le pogo, il y a un cri. Affirmé cette fois, structuré, nous voici, divertissez-nous, avec les pronoms pluriels qui encadrent. Phrase que, paraît-il, Kurt Cobain aimait lancer en arrivant en soirée. Here we are, structure dite présentative, qui déclare l'existence, mais en l'ancrant dans un lieu, here, ici et maintenant, now, au présent de oui, nous, qui réfère au petit groupe, our little group, qui a toujours existé et qui existera jusqu'à la fin. Et là encore, on a une autre phrase claire qui, avec un présent continué. Ainsi, Teen Spirit, en même temps qu'il exude le non-sens, la misère d'être soi, en célèbre la sortie. Peut-être que le déni final, ce denial, c'est celui de soi, de la fatigue, du dégoût de soi, par la libido, my libido, qui jette vers les autres, vers cet état grunge et béni, parce qu'il brouille les frontières entre soi et l'autre, le propre et le sale, le crade, le bien et le mal.
Quelle analyse!
Mais vous saviez d'où venait l'expression Smells Like Teen Spirit?
Oui, je sais que c'est son ex, allez-y, dites-le.
Non, mais c'est une publicité pour un déodorant.
Oui, oui, alors,
là, Mathieu Conquet.
Mais le déo, précisément, il était porté par quelqu'un de précis, c'était Toby Vail, en fait. Oui. Avant de fonder Nirvana, Cobain, il a vécu à Washington. Voilà, il était très proche de cette chanteuse musicienne qui est une activiste féministe, les Riot Girls, le groupe Bikini Kill. C'était elle. Et en fait, elle portait ce déo. Et un jour, une de ses amies de cette fille a écrit dans la chambre de Cobain, elle a écrit sur le mur pour l'emmerder, Kurt smells like Teen Spirit. Ça veut dire, en gros, il sent le déo de sa copine. Et lui, il a lu cette phrase au premier degré comme Teen Spirit, il ignorait que c'était le nom d'une marque. Il a dit, il sent comme le parfum de l'adolescence. Et là, il y a quelque chose d'essentiel. Oh, c'est très beau.
Ouais.
Toutes les chroniques de Gilles Neveu avec la langue à réécouter sur l'appli France Inter. Merci aux amis du vendredi. Thibaut, Julie, Guillemette, Grégory et Christina. Merci beaucoup, Mathieu Conquet, au programme de votre émission. Et je remets le son ce soir à 21h.
Je fais les mains du corne et du métal. Il y a une expo métal à la Philharmonie. Je vous en dis quelques mots.
Merci beaucoup, Michel. Kassayas, on peut réécouter sur l'appli France Inter les 4 émissions que vous avez consacrées à Nirvana cette semaine. Kurt Cobain, héros malgré lui. Et puis on pourra vous rencontrer vendredi prochain à 15h45 précise au Festival du Livre de Paris, au Grand Palais Éphémère. Et il y aura Mishka, donc Kassayas, André Manoukian et Didier Varro. Et ce sera une rencontre animée par Laurent Boumard. Le thème, c'est les pouvoirs de la musique. Merci à tous les deux. Demain, j'aurai le plaisir de vous retrouver à 9h30 sur France 2 dans l'émission Bel et Bien, co-présenté avec Agathe Le Caron et avec André Manoukian et Elsa Wolinski. Et lundi, on s'intéresse, c'est un autre thème, aux maladies transmises par les insectes, de la dengue à la maladie de Lyme, en passant par le paludisme. On s'intéressera également aux piqûres de frelons asiatiques. Toutes vos questions dès maintenant sur l'appli France Inter. Bon week-end.